Évidemment, je pense qu'on tombera d'accord pour dire que le temps passe vite. Alors je suis désolé de commencer cette prédication avec un tel lieu commun, une telle banalité, mais c'est banal, mais c'est vrai. Noël 2008 est déjà derrière nous, et la semaine prochaine, nous entrerons dans la nouvelle année. Donc fini 2008, voici 2009. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je n'aime pas trop la fête du nouvel an. Fêter le passage à une nouvelle année, ça m'a jamais beaucoup inspiré. Pour tout dire, je trouve cela assez artificiel. Concrètement, qu'est-ce qui va réellement changer dans la nuit de mercredi à jeudi? Eh bien, rien. Alors, il se trouve que le décompte du temps est purement arbitraire. On compte en années, en mois, en semaines, en jours, en heures, en minutes, en secondes. Mais en elles-mêmes, ces unités temporelles n'ont pas de réalité. Alors il faut savoir que Flaubert disait « Qu'est-ce qu'un siècle ? Une minute dans la nuit. » La seule réalité, c'est celle du temps qui passe, inéluctablement. Alors pourquoi fêter une nouvelle année ? Ou alors autant fêter chaque nouvelle seconde qui passe ? Alors peut-être pas chaque seconde, parce que c'est vrai que j'en conviens, ça deviendrait assez fastidieux. Mais ça n'a pas vraiment de sens en soi-même de fêter une nouvelle année. Bon, et puis pour être tout à fait honnête, il faut reconnaître que la fête du nouvel an ne me correspond pas très bien. Ça crie, ça boit, ça danse, mais surtout ça se couche très tard. Non, c'est vraiment quelque chose qui ne me convient pas du tout. Mais bon, ça c'est mon côté un peu vieux pépère, donc on ne peut pas vraiment le retenir comme argument. Bon, allez, je vais vous concéder ce matin que le nouvel an a quand même une certaine utilité. Comme toutes ces fêtes qui rythment l'année, le nouvel an est une période propice à la réflexion. C'est toujours l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée, mais aussi de faire des projets pour l'année qui vient. C'est le temps des bonnes résolutions. L'an dernier, j'étais encore un peu prétentieux, mais cette année, je serai parfait. Alors, donc le nouvel an n'est pas si inutile, si artificiel que cela. C'est un de ces moments qui stimulent notre réflexion, et ce matin, je vous invite donc à profiter de cette occasion du nouvel an pour réfléchir ensemble. Et pour y réfléchir à la lumière de la Bible, car Dieu a sans nul doute des choses à nous dire à cette occasion. Dieu nous encourage à réfléchir à l'année écoulée et aussi à l'année qui vient. Et donc pour cela, je vous propose en fait de vous appuyer sur seulement un verset de ce qu'on a lu, du psaume 130. En fait, on va surtout s'appuyer sur le verset 5. Alors peut-être que ce verset, on pourra en faire notre devise pour cette nouvelle année 2009, enfin cette année 2009 qui va bientôt débuter. Alors on a lu tout le psaume, parce que c'est utile d'en connaître le contexte, et puis on évoquera quand même certains aspects des autres versets, mais c'est essentiellement le verset 5 qui retiendra notre attention. Le verset 5 déclare « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. » Donc trois affirmations. D'abord, « J'espère en l'Éternel. » Ensuite, « Mon âme espère en l'Éternel. » Et enfin, « J'attends la promesse de l'Éternel. » Et ce sont ces trois affirmations qui constitueront le plan du message de ce matin. Alors d'abord, « J'espère en l'Éternel. » Donc, voyons dans un premier temps le choix du psalmiste, puis, dans un second temps, nous réfléchirons à notre propre choix. Le psalmiste a fait un choix, celui d'espérer en l'Éternel. Alors selon les versions, le texte varie un peu. « J'espère en l'Éternel » ou alors « Je m'attends à l'Éternel » ou encore « Je compte sur le Seigneur ». Alors les versions varient un peu, mais l'idée est claire. Le psalmiste a décidé de dépendre de Dieu. Il a décidé de fonder sa vie sur l'Éternel. Ça veut dire que le psalmiste construit, avance en s'appuyant sur le Seigneur et son attente, son espérance, sa force, mais aussi son soutien, se trouve en Dieu. J'espère en l'Éternel. Il se trouve que par nature, l'homme a plutôt tendance à rechercher ses appuis ailleurs qu'en Dieu. D'abord, l'homme se confie souvent en lui-même. J'ai confiance en personne d'autre que moi-même. Je m'appuie sur mes compétences, sur ma volonté, sur ma force de caractère, sur mon intelligence. Ensuite, l'homme se confie parfois dans ses semblables. Je compte sur mon conjoint, sur ma famille, mes amis, les frères et sœurs aussi que je croise à l'église. Enfin, bien souvent, l'homme se rassure avec les biens, avec les choses qu'il possède. Ce qui compte, c'est l'argent que j'ai déposé à la banque. C'est mon boulot, c'est ma maison. Alors attention, les choses ne sont pas sans valeur. On ne doit pas les mépriser en tant que telles. Bien plus, les autres et soi-même sont importants. Dieu souhaite nous voir nous engager pour et avec les autres, construire avec les autres et ne pas avancer en solitaire. Dieu a aussi fait de nous son chef-d'œuvre. Il nous a donné des qualités, des capacités. Et savoir reconnaître ses propres qualités, ses forces et s'en servir, c'est aussi très bien. Donc le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Par contre, le problème, c'est de fonder toute sa vie sur cela. Mettre toute sa confiance en nous-mêmes, dans les autres ou dans les choses, ça s'appelle de l'idolâtrie. C'est prendre la place qui revient à Dieu pour la donner à un autre. Mais c'est aussi faire un très mauvais calcul. Car tôt ou tard, nous-mêmes, les autres, les choses, tout cela soit nous décevra, soit nous sera retiré. Et si toute notre vie repose sur cela, alors notre vie s'écroulera. Parfois dans la vie, tout nous est enlevé. Et c'est justement cette expérience que connaît le psalmiste. Au verset 1, il nous dit qu'il invoque Dieu du fond de l'abîme, ou alors des profondeurs. Le psalmiste connaît le malheur, la souffrance, sans doute même l'abandon. Et littéralement, il nous dit qu'il est submergé par le malheur. Et pourtant, le psalmiste n'est pas anéanti. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il place sa confiance en l'Éternel. Et si autour de lui tout s'écroule, le fondement de sa vie reste ferme. L'Éternel ne l'abandonne pas. Alors l'Éternel ne lui épargne pas la détresse, mais il reste à ses côtés et il le soutient. Voilà pour le choix du psalmiste. Mais nous, qu'en est-il de nous ? Avons-nous fait le même choix que le psalmiste ? Alors je l'ai dit, la fin d'une année et le début d'une nouvelle sont l'occasion de nous poser des questions. Alors profitons de cette occasion pour nous poser les vraies questions, à savoir celles qui comptent vraiment, les questions importantes, notamment celles-ci. Sur quoi repose notre vie ? Sur quoi ou sur qui je m'appuie pour avancer dans la vie ? En quoi ou en qui je place toute ma confiance ? Une nouvelle année commence et nous ne savons pas ce qui nous attend. L'année 2009 sera peut-être une année riche en bénédictions, ou tout au contraire, peut-être sera-t-elle marquée par les épreuves et la souffrance. On ne sait pas, mais vraisemblablement, il y aura des deux. 2008 n'a-t-elle pas apporté son lot de joie mais aussi de peine ? Alors pourquoi en irait-il différemment en 2009 ? De ce point de vue, les années se ressemblent. Mais pourtant, elles sont aussi très différentes les unes des autres. Et le fait de ne pas connaître le contenu de cette nouvelle année, à la fois aiguise notre curiosité, mais nous fait peur en même temps. Nous aimons les bonnes surprises, mais nous redoutons les mauvaises. Mais c'est ainsi, nous ne pouvons pas savoir quelles circonstances nous allons traverser. Par contre, nous pouvons choisir dès maintenant avec qui nous allons les traverser. le psalmiste a décidé d'espérer en l'Éternel, de compter sur le Seigneur. Quels que soient les événements qui l'attendent, le psalmiste sait qu'il pourra compter sur l'Éternel, et c'est là le plus important. La vie est faite de routines et de surprises, de rires et de larmes, de bonheur mais aussi de malheur. Tout change tellement vite autour de nous. Alors savoir ce qui nous attend n'est pas si utile que cela. Ce qui importe, c'est de savoir sur qui nous pouvons nous appuyer au travers de ces circonstances changeantes et chaotiques. Et là, une seule réponse, le Seigneur. Celui qui, lui, ne change pas. Celui qui reste toujours fidèle. « J'espère en l'Éternel », nous dit le psalmiste. Mais le texte ajoute « J'espère en l'Éternel, mon âme espère ». Et c'est notre seconde partie. « Mon âme espère en l'Éternel ». Alors je vous propose de tenter de répondre à deux questions. Première question, jusqu'à quel point devons-nous espérer en l'Éternel ? Et deuxième question, pourquoi pouvons-nous ainsi espérer en l'Éternel ? Alors d'abord, jusqu'à quel point devons-nous espérer en l'Éternel ? Le texte précise « J'espère en l'Éternel, mon âme espère » ou alors « J'attends de toute mon âme » ou encore « Je m'attends à lui de tout mon être ». Alors nous avons vu que le psalmiste comptait sur l'Éternel. Maintenant, nous voyons jusqu'à quel point le psalmiste compte sur l'Éternel. De toute son âme. Et nous savons que l'âme dans la Bible, c'est le cœur de la personnalité. Le psalmiste considère que le Seigneur est tout pour lui. Il n'y a pas la moindre parcelle de son être qui ne s'appuie sur Dieu. Si nous sommes ici ce matin, c'est sans doute parce qu'il y a eu un jour dans notre vie où nous avons décidé, où nous avons pris l'engagement de compter sur l'Éternel. Nous comptons sur l'Éternel, soit. Mais jusqu'à quel point ? Quelle est la part de notre être qui compte réellement sur le Seigneur ? Est-ce que le Seigneur remplit notre âme ? Est-ce que le Seigneur a rempli tout notre cœur, notre être tout entier ? Eh bien, pour le savoir, là encore, la période du réveillon est une bonne occasion. Nous l'avons dit, la fin d'une année est synonyme de bilan. Alors il suffit de se retourner sur l'année écoulée et de constater, si possible sans complaisance, de constater quelle place nous avons laissée au Seigneur. Quelle place lui avons-nous laissée dans notre vie, dans nos choix professionnels, dans nos choix affectifs, dans notre vie de tous les jours. Quel temps avons-nous mis à part pour lui ? Le psalmiste nous encourage à construire la totalité de notre vie sur le Seigneur, à espérer en Dieu, mais dans tous les domaines de notre vie. Mais cela nous amène à notre seconde question. Pourquoi pourrions-nous ainsi espérer autant en l'Éternel ? N'est-ce pas un peu dangereux de nous appuyer complètement sur Dieu ? Compter sur le Seigneur, pourquoi pas ? C'est un plus, ça ne peut pas faire de mal. Mais de là à fonder la totalité de notre vie sur lui, de là à compter sur lui de toute notre âme, toute notre personnalité, notre vie dans son intégralité, ça demande de réflexion. En fait, pourquoi ferions-nous autant confiance au Seigneur ? Qu'a-t-il fait pour mériter notre confiance ? Eh bien, la réponse se trouve dans les versets 7 et 8, du psaume, versets 7 et 8, « Israël, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. » Nous pouvons espérer en l'Éternel de toute notre âme, et cela pour deux raisons. D'abord, en raison de la nature même de Dieu, et ensuite en raison de ce qu'il a fait. La nature même de Dieu nous permet de fonder avec confiance toute notre vie sur lui. Selon les traductions, le verset 7 déclare « Compte sur le Seigneur car il est bon. Place ta foi en l'Éternel, car c'est auprès de lui qu'on trouve l'amour. Ou encore, l'idée que le Seigneur est miséricordieux, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Ce verset 7 souligne la bonté et la miséricorde de Dieu. Le psalmiste sait que Dieu est miséricordieux et bon, et c'est pour ça qu'il n'hésite pas à lui faire confiance. Mais le psalmiste se fonde aussi sur ce que Dieu a fait pour placer son espérance en lui. Toujours versets 7 et 8, surtout sur la fin du verset 7 et le début du verset 8, « La rédemption est auprès de lui en abondance, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. » Le psalmiste sait que Dieu seul peut le racheter de ses fautes. Car il se sait pécheur. Au verset 3, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister ?» Sous-entendu, personne ne peut subsister face à l'Éternel à cause de son péché. Le psalmiste reconnaît qu'il est pécheur et il reconnaît que seul l'Éternel peut lui procurer le pardon de ses péchés. Et le verset 8 est très beau. Parce que dans ce verset 8, le psalmiste anticipe l'œuvre du Christ. C'est Dieu qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Et nous savons que ce verset a été pleinement réalisé en la personne de Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils pour réaliser cela. Christ est mort à la croix pour nos péchés. Il est mort pour nous racheter de nos fautes. Alors, comment pourrions-nous encore hésiter à faire totalement confiance en l'Éternel ? Un Dieu si bon, si miséricordieux, si bon au point d'accepter de sacrifier son propre Fils pour nous faire échapper à la mort. Oui, notre Dieu est digne de confiance. Alors vous savez, actuellement, je ne sais pas si vous suivez l'actualité sportive, mais actuellement, il y a une course de bateau importante, le Vendée Globe Challenge. Et il y a 10 jours, on a frôlé le drame. Le skipper Yann Eliès s'est fracturé le fémur, le bassin aussi, sur son bateau. Or, c'est une course en solitaire, ce qui veut dire qu'il est seul sur son bateau. Et il n'y avait donc personne pour l'aider. Et Yann Eliès ne pouvait plus bouger, ni même piloter son navire. Son bateau dérivait et le skipper allait même périr de déshydratation. Heureusement, il y a une frégate de l'armée australienne qui est venue exprès pour le secourir. Un médecin militaire australien et des marins sont montés à bord de son bateau pour le soigner et le rapatrier. Comment Yann Eliès les a-t-il accueillis d'après vous ? Oula, attendez, je ne vous connais pas moi. Est-ce que je peux vraiment vous faire confiance ? Vous ne parlez même pas ma langue, je vous ai jamais vu auparavant. Non, désolé, je n'ai pas confiance. Laissez-moi tranquille sur mon bateau et repartez. Non, évidemment que non. Le fait que ces gens viennent le secourir était suffisant pour que Yann Eliès leur fasse confiance. Eh bien, c'est un peu pareil avec l'Éternel. Nous pouvons lui faire totalement confiance, notamment parce qu'il a prouvé son amour pour nous. Il nous a aimés au point d'aller jusqu'à la croix pour nous. Alors son amour, c'est du solide. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. C'est notre dernière partie. J'attends la promesse de l'Éternel. Ou plus précisément, j'attends sa parole. J'attends ce qu'il va dire. J'ai foi en sa parole. La promesse, c'est la parole de Dieu, ce qu'il nous dit. Ce que Dieu dit est tellement sûr que le psalmiste peut parler de promesse. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, les fins et les débuts d'année me rendent très bavard vis-à-vis de Dieu. Je me mets tout d'un coup à beaucoup parler au Seigneur. Bah oui, le reste de l'année, je n'ai pas trop le temps. Vous comprenez, le reste de l'année, il y a le travail. Alors en été, c'est vrai que je suis en vacances, mais bon, il y a toutes les activités liées à mes vacances. J'ai tellement de choses à faire que j'expédie rapidement mes prières. Oui, je sais, ce n'est pas bien. Mais aux alentours du réveillon, c'est différent. À ce moment-là, j'ai plein de choses à dire à Dieu. Alors, je ne suis pas un ingrat. Je commence d'abord par le remercier. Merci pour ceci, merci pour cela. Mais bon, honnêtement, surtout pour la nouvelle année qui arrive, j'ai beaucoup de choses à demander. Seigneur, pourrais-tu m'accorder, alors voyons, une bonne santé, mais bon, ça je dirais que c'est un peu la base. Une promotion, ça me permettra de gagner plus d'argent. L'âme sœur aussi, bon, si possible une femme mignonne. Une voiture, ah oui, des voisins moins bruyants aussi. Non, je plaisante. Bien entendu, je ne le demande pas comme ça. Ce serait incorrect, je ne suis pas fou. Non, je me contente de demander à Dieu de me bénir, en espérant qu'il comprendra ce que moi, je sous-entends par là. Tolstoï disait « Tous les hommes font la même erreur, de s'imaginer que bonheur veut dire que tous leurs vœux se réalisent. » Le psalmiste, lui, attend la promesse de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il attend la parole de Dieu, il attend ce que le Seigneur va dire. Et si nous aussi, en ce début d'année, nous décidions de nous mettre à l'écoute du Seigneur. Alors nous pouvons lui présenter des requêtes, il nous encourage lui-même à le faire. Mais nos demandes, nos attentes, nos souhaits ne doivent pas couvrir le son de sa voix. Imaginez un peu, on vous introduit dans la salle, du trône d'un grand roi. Autour de vous, toute la cour fait silence. Les gardes vous escortent jusqu'au pied du trône majestueux. Et là, avant même que le roi n'ait pu ouvrir la bouche, vous voilà en train de lui raconter votre vie, vos soucis, vos ambitions, la manière dont vous souhaitez qu'il vous aide. Ce serait inconvenant, ce serait incorrect. N'oublions pas que c'est Dieu qui est notre Seigneur et non l'inverse. Alors mettons-nous humblement à son écoute. Écoutons ce que le Seigneur veut nous dire en ce début d'année. Recherchons sa volonté avant la nôtre pour cette année 2009. Et recherchons sa volonté dans sa parole. Alors il est temps de conclure. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Alors je ne sais pas ce que l'année nouvelle vous réserve, me réserve. Je vous souhaite beaucoup de bénédictions dans le Seigneur, à tous. Que ceux qui ne le connaissent pas encore puissent lui donner leur cœur. Pour ceux qui sont ses enfants, je souhaite qu'ils puissent aller de progrès en progrès dans leur marche avec lui. Que votre foi, votre fidélité, votre amour augmentent toujours plus. C'est aussi ce que je me souhaite. Mais ma prière ce matin, c'est celle-ci. D'abord, que nous puissions tous espérer en l'Éternel, que notre vie se fonde sur Dieu, que notre année 2009 repose d'un bout à l'autre sur Dieu. Ensuite, que nous puissions aussi espérer en l'Éternel de toute notre âme, que toute notre vie s'appuie sur lui, que nous lui remettions tous les domaines de notre vie pour qu'il les transforme à sa gloire. Et enfin, que nous attendions sa promesse, sa parole, que nous acceptions ce que lui nous dira, même si ça ne correspond pas toujours à ce que nous attendions, que nous nous soumettions à sa volonté, quelle qu'elle soit. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Puisse ce témoignage du psalmiste être aussi le nôtre en 2009. Amen.